Ça fait plaisir d'être parmi vous encore une fois. Il me semble que ça fait un petit moment là que j'étais pas venu. Je commençais à m'ennuyer de vous. Non, ça fait plaisir d'être ici. Alors moi, je vous pose une question au départ. Je connais déjà la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir soif? Hein? Mais pas seulement une petite soif, mais vraiment soif. Hein? Vous imaginez comme il y a 2-3 semaines, là, la canicule, en plein été, peut-être en train de faire du vélo, vous pédalez, il y a une pente très prononcée, sous un soleil de plomb, et vous avez envie de boire. Ou alors, imaginez, vous êtes en train de réparer votre toiture, hein? Votre gorge est sèche, c'est en plein midi, il fait soleil, ça tape et vous avez soif. Imaginez, vous êtes en train de faire votre jardin et là encore une fois, les rayons qui chauffent, les gouttes de sueur qui commencent à tomber, il fait chaud et vous avez soif. Soif. Le texte qu'on va voir cet après-midi nous parle de la soif, nous parle aussi de l'eau. C'est bien de l'eau quand on a soif. Et nous parle aussi d'être désaltéré. On va prendre le temps de lire ce texte, donc c'est dans Jean chapitre 4, versets 1 à 42, c'est pratiquement tout le chapitre. On va lire Jean 4, 1 à 42. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mais en réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ de Jacob, le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La Samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ?» Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra une source en lui, une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. » Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir, et quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent, et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme, mais aussi, aucun d'eux n'osa lui demander, « Que lui veux-tu ? Ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche là, et retourna à la ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Et pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose !» disait-il. Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples demandèrent alors les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Vous dites-vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai, le proverbe qui dit, un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. » Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux et Jésus resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous avons la certitude qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Quel beau texte, quelle belle rencontre. Dès le début du récit du chapitre 4 de l'évangile de Jean, le texte nous parle des Samaritains. Vous avez lu le Nouveau Testament, vous savez que le Nouveau Testament nous parle souvent de cette population. C'est une population qui est différente de la population juive. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les Juifs, et le texte en parle ici, les Juifs détestaient les Samaritains. Et en fait, ils évitaient d'entrer en contact avec eux. En Israël, les Samaritains étaient souvent victimes de discrimination. Rien de bon, semble-t-il, pouvait venir de cette population-là. Hein? Si un crime était commis, eh ben, on se disait, ah, ça doit être les Samaritains. S'il y avait des problèmes dans la société, eh ben, les Samaritains doivent être pour quelque chose là-dedans. Et même si on voulait injurier quelqu'un, comme on a fait avec Jésus, on le traitait de Samaritain. C'était la pire injure qu'on pouvait donner à un Juif. Samaritain ! Mais d'où viennent ces gens ? D'où viennent les Samaritains ? Qui sont-ils ? Alors, il faut savoir que ce sont des populations métissées qui habitaient entre la Judée et la Galilée au temps de Jésus. Mais ces populations-là n'avaient pas toujours été dans cette région-là. 550 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Assyriens, et c'était la méthode des Assyriens, les Assyriens, quand ils faisaient la conquête d'un territoire, ils prenaient des populations et ils les déplaçaient et les plaçaient ailleurs. Donc ces gens qui étaient venus d'Assyrie avaient été placés sur le territoire d'Israël. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on appellerait ce genre d'opération ? On appellerait ça un nettoyage ethnique. Et c'est ce qui se passait à l'époque. Mais une fois en Israël, ces païens s'étaient mariés avec des juives et avaient adopté certaines parties de leur religion. Alors en fait, les Samaritains avaient fait de la religion juive une sorte de syncrétisme. Et tout bon juif qui se respecte se devait de rejeter ce genre de pratique. On ne mélange pas la religion païenne avec la foi d'Israël. Et donc, il détestait les Samaritains. Le texte nous dit ici quelque chose d'assez intéressant. C'est un tout petit mot, mais qui nous dit pas mal de choses par rapport à l'activité de Dieu dans la vie de Jésus. Le texte nous dit qu'il fallait que Jésus passe par ce territoire. J'aimerais qu'on s'arrête un instant à cette petite phrase-là. Il fallait que Jésus passe par le territoire de Samarie. Ça, c'est très intéressant. Il fallait. Jésus a décidé de prendre cette route parce que c'est Dieu qui le dirigeait comme ça. Dieu, dans son plan parfait, voulait que Jésus emprunte ce chemin et Jésus à écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est pas anecdotique. Dans la vie de Jésus, Jésus écoutait la voix de Dieu, son Père. Hein? Jésus se laissait guider par son Père. C'était son habitude tout le temps, à tout moment et partout, sensible à la direction de Dieu dans sa vie. Et Jésus n'a jamais cessé de voir la puissance de son Père se manifester dans sa vie. Et j'aimerais dire ceci, tous ceux qui se laissent guider par Dieu, encore aujourd'hui, expérimentent aussi la puissance de Dieu dans leur vie et découvrent que le Seigneur a préparé des rencontres providentielles pour eux. Jésus veut encore guider les personnes, hommes et femmes, aujourd'hui dans notre vie. Et si on écoute sa voix et on se laisse guider, le Seigneur va nous permettre de faire des rencontres providentielles. Et c'est ce qui s'est passé ici dans notre texte. Jésus donc passe par la Samarie, c'est Dieu qui l'a guidé là, il aurait pu contourner. Et il s'arrête à Sichar. Sichar, ça c'est l'ancienne Sichem de l'Ancien Testament. C'est là où les ossements du patriarche Joseph avaient été enterrés. Lorsque les Juifs avaient ramené le corps de Joseph en Palestine, en Israël, les ossements avaient été enterrés à Sichar. Jésus, dans ce passage, apparaît comme un non-conformiste. Avez-vous déjà pensé à Jésus de cette manière-là? Jésus, c'est un non-conformiste. Regardez bien ce qu'il fait ici. S'il avait fait comme tout le monde, Jésus ne serait pas passé par la Samarie. En général, les Juifs, quand ils voulaient aller en Galilée, ils partaient de Judée et ils contournaient la Samarie pour aller au nord. Mais Jésus ne fait pas ça. Un non-conformiste. S'il avait fait comme tout le monde, il ne serait pas passé par la Samarie. S'il s'était soumis aux conventions admises à son époque, Jésus n'aurait jamais parlé à une Samaritaine non plus. Remarquez ça. Jésus, non seulement il passe par la Samarie, c'est déjà assez exceptionnel, mais en plus, il va parler à une Samaritaine. Hein? Parce que pour les Juifs, les Samaritains, c'était considéré comme une population impure. Un non-conformiste, Jésus. Jésus ne se plie jamais aux coutumes de la majorité quand ces coutumes-là sont mauvaises. Vous avez remarqué dans le texte. S'il y a une coutume qui est mauvaise, Jésus ne va pas se plier aux coutumes des autres juste pour faire comme tout le monde. Une autre raison qui aurait pu pousser Jésus à ne pas adresser la parole à la Samaritaine, c'est quoi? C'est tout simplement que cette personne, c'était une femme. Une femme, un homme qui parle à une femme. Les rabbins au temps de Jésus estimaient indigne d'un homme de parler à une femme. Comprenez ça? C'est incroyable, mais c'était comme ça. Mais Jésus n'hésite pas à mettre de côté les règles de la bonne société. Il n'hésite pas à remettre en cause les préjugés de son époque quand il s'agit de faire connaître l'amour de Dieu. Et ça nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jésus, un non-conformiste, il va parler à une Samaritaine, il va parler à une femme, il va passer par le territoire des Samaritains au lieu de faire un détour, parce qu'il fallait. Dieu avait tracé un chemin et Jésus écoutait la voix de son Père. Il marchait parfaitement dans le chemin que Dieu a tracé. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un autre détail du texte qui m'a beaucoup touché, moi, personnellement. C'est cette petite phrase dans le texte, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Alors, c'est une phrase que j'ai trouvée surprenante dans la bouche de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout pouvoir. Il possède la souveraineté en tout. Jésus incarne à la fois la vérité, la lumière, la vie et l'éternité. Mais ici, il demande à boire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus se rend vulnérable en face d'une inconnue. Il se rend vulnérable. Incroyable, ça. Jésus ne joue pas au surhomme. Vous remarquez ça ? Il est totalement humain. Il ne joue pas au surhomme. Il expose sa faiblesse, en fait. Il ne cache pas ses besoins. Et il est prêt à recevoir quelque chose de cette pauvre femme méprisée. Hein ? Recevoir de quelqu'un qui est plus petit que lui dans la société. Vulnérable. Vous dites, ben, c'est normal. Tout le monde fait ça. En êtes-vous si sûr ? Est-ce que vous faites ça ? Pas si sûr, hein ? Même la femme samaritaine ici, elle semble prise par surprise par la requête de Jésus, « Donne-moi à boire ». Elle est surprise. Et cette demande, en fait, ça nous en dit long sur la personne de Jésus. Dans son incarnation, le Fils de Dieu a soif, il est fatigué, il se place dans une position de faiblesse où il a besoin des autres. Lui, le Tout-Puissant, il accepte qu'un plus petit que lui l'aide. Quelle humilité ! Est-ce qu'on aurait fait la même chose, nous, si on avait été à sa place ? Quelle humilité ! Alors, dans la suite du récit, remarquez bien cela. L'apôtre Jean passe du besoin de Jésus à celui de la femme. Voyez ? Jésus, il sait, lui, qu'il a soif. Il en a parlé, « Donne-moi à boire ». Il a besoin de boire de l'eau. Mais à cause de toutes sortes de considérations ethniques et religieuses, remarquez bien ceci, la Samaritaine ne va pas lui donner à boire. Vous avez remarqué, pendant tout le chapitre, il a soif et elle ne lui a pas donné d'eau. Elle ne lui donne pas à boire. Jésus, pendant tout le récit, va continuer à avoir soif. Par contre, cette pauvre femme, elle aussi, elle a besoin d'eau, mais elle ne le sait pas encore. Elle a besoin d'eau, elle aussi, mais elle ne sait pas. Et pendant la canicule de 2003, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de la canicule de 2003 ? Ouh, il faisait chaud, hein ? Ouh là 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 ! Vous vous souvenez que pendant la canicule de 2003, il y a un tas de personnes âgées qui avaient besoin de boire, mais elles ne le savaient pas. Hein ? Les gens ont soif, et surtout les personnes âgées, mais elles ne savent pas. Et il y a plusieurs personnes qui sont mortes parce qu'elles avaient soif, elles avaient besoin de boire, mais ne savaient pas. On a la même chose ici dans le texte. C'est le dialogue avec Jésus qui va amener la femme à prendre conscience de son besoin. Vous avez remarqué ça ? Hein ? En contact avec Jésus, elle va commencer à comprendre qu'elle a soif. Elle ne savait pas avant. Et nous, au fond, est-ce qu'on est différent ? On n'est pas différent. On est comme la femme samaritaine. Avant d'entrer en dialogue avec Jésus, avant d'entendre sa parole, on ignore qu'on a un problème spirituel. Tous les êtres humains sont comme ça. À moins d'entrer en dialogue avec Jésus, on ne sait même pas qu'on a soif. On ne sait même pas qu'on a un problème spirituel. Mais c'est à l'écoute de la parole de Dieu que nos véritables besoins spirituels vont faire surface. On a besoin d'être exposé à la parole de Jésus. Alors Jésus, ici, il éveille chez cette femme quelque chose de très profond qu'elle avait jusqu'à ce jour-là réussi à étouffer. On est pas mal, nous, les êtres humains, on est habiles à étouffer toutes sortes de besoins qu'on a dans notre vie. Hein. Elle avait réussi à étouffer ses besoins, à enfouir ses besoins sous plusieurs couches de relations humaines. Mais comment est-ce que Jésus éveille cette femme à ses besoins ? Comment il fait Jésus ici ? Une femme rejetée, une femme méprisée, marginalisée. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Eh bien, on le voit dans la suite du discours, il la considère, il la respecte, il l'écoute, il lui consacre du temps. Et imaginez, mettez-vous dans la peau de cette femme-là. Il y avait peut-être très très longtemps que cette femme n'avait pas été traitée de cette manière-là. Jésus l'aime en fait. Jésus aime cette femme-là. Elle avait besoin d'être respectée, d'être aimée, d'être écoutée. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Alors d'une manière assez énigmatique, Jésus lui parle d'une eau meilleure que celle qu'elle a toujours puisée au puits de Jacob. Elle est intriguée, cette femme. De quoi est-ce qu'il parle, Jésus? Une eau meilleure que celle-là? Je ne connais pas. Alors, quand on est dans une situation comme celle de la Samaritaine, on ne peut être que sensible aux paroles de Jésus. Hein? Jamais personne ne lui a parlé de ce genre d'eau avant. Personne ne lui a fait une promesse aussi forte que celle que Jésus lui fait là. Trouver une eau vive qui va la satisfaire enfin. Avoir une source dans son cœur qui ne tarira jamais. Alors là, c'est assez pour piquer sa curiosité. Alors Jésus, là, il a toute son attention. Mettez-vous à la place de la Samaritaine. Elle a cherché toute sa vie quelque chose qui pourrait la combler. Toute sa vie. Elle y a mis tout son cœur. Et cette quête l'a amenée à faire des mauvais choix. Alors quand on pense qu'on a besoin d'une chose comme ça, très très fort, parfois on est prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme-là. Cette quête l'a amenée à faire des mauvais choix parce qu'elle a voulu apaiser sa soif de n'importe quelle manière. Mais elle a fait des mauvais choix et s'est retrouvée encore plus mal, plus rejetée, plus seule, plus marginalisée. Et voilà qu'un homme qu'elle ne connaît même pas lui parle de ce qui peut enfin étancher sa soif. Et là, elle se dit sans doute, là, c'est ma chance. C'est la chance de ma vie. Et Jésus lui offre son eau. Et elle dit oui. Elle est d'accord. Elle a envie d'avoir cette eau vive. Et à ce moment-ci, dans le texte, il y a quelque chose qui bascule. Vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose qui a basculé là. Jésus a son attention. On s'attend à ce que Jésus lui donne cette eau spirituelle sur le champ, maintenant, sans attendre, là, au bord du puits. Mais remarquez ce qui se passe ici. Est-ce que Jésus lui donne l'eau maintenant, sans attendre? Non, Jésus ne fait pas ça. C'est étrange ça, non? Un évangéliste, là, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir dire oui, il veut accepter le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, hein? Jésus, lui, il a fait attendre. Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Quel genre d'évangéliste, ça? Pourquoi Jésus l'a fait attendre? Parce que la Samaritaine a besoin de savoir si elle veut changer vraiment. Elle a besoin de savoir pourquoi sa soif n'a jamais été étanchée par toutes les choses qu'elle a bues auparavant. Pourquoi ça n'a pas marché, tout ce qu'elle a essayé de faire jusqu'à présent. Elle a besoin de savoir pourquoi. Elle doit comprendre pourquoi ce qu'elle a choisi pour se désaltérer, ça n'a fait qu'augmenter sa souffrance. Et Jésus va lui dire ça. Jésus lit dans le cœur de cette femme comme dans un livre ouvert. Jésus lit dans notre cœur, là, maintenant, aujourd'hui, comme dans un livre ouvert. Cette femme, en fait, avait essayé d'étouffer sa soif en ayant plusieurs hommes dans sa vie. 5 maris. Et celui avec qui elle vivait là, c'était même pas son mari, un 6e. Même après 5 échecs, imaginez, 5 fois ça n'a pas marché. Elle restait persuadée qu'un homme pouvait satisfaire les besoins les plus profonds de sa vie, de son cœur. Mais écoutez, les femmes qui sont ici, là, demander à un homme de satisfaire les besoins les plus profonds que vous avez, même s'il s'agit du meilleur homme qu'il y a ici dans la salle, c'est voué à l'échec. Ça ne marche pas. Un homme ne peut pas combler les besoins d'une femme et une femme ne peut pas combler les besoins de son mari. Ça ne marche pas. Pour la Samaritaine, les relations amoureuses devaient lui apporter le bonheur. Et il y en a peut-être qui pensent comme ça, encore ici, même aujourd'hui. Si je trouve cet homme-là ou cette femme-là, ce mouton à cinq pattes, eh bien là, je vais être heureux. Mes besoins vont être comblés, un vrai sens à ma vie. Elle pensait que Marie allait combler le vide de son cœur. Elle attendait que son vœu se réalise, mais rien, rien. Jamais rien, toujours ce vide dans son cœur. Alors, on parle des relations entre hommes et femmes, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être le travail, ça pourrait être la drogue, ça pourrait être le prestige, ça pourrait être la course au diplôme, ça pourrait être la carrière qu'on essaie de prendre pour remplir le vide de son cœur. Mais tant qu'on n'a pas trouvé l'eau vive dont Jésus parle dans Jean 4 ici, on va essayer d'étancher sa soif avec toutes sortes de choses et on va toujours arriver à la même conclusion, insuffisant. Ça ne marche pas. Alors ici, dans Jean 4, Jésus démasque comme une vraie idolâtrie toutes les choses qui sont données et qui tentent de combler le vide d'un cœur humain. Toutes ces choses qu'on érige d'une certaine manière comme un absolu dans notre vie. Hein? Ça peut être l'argent, les relations, la beauté, la santé, la bonne réputation, les diplômes, les plaisirs de la vie. Toutes ces choses-là, ce sont des cadeaux que Dieu nous fait. Des cadeaux qu'on reçoit avec action de grâce. Et il n'y a pas de mal à jouir des cadeaux que Dieu nous fait. Alors si vous recevez des cadeaux, des dons de Dieu, vous dites merci et vous louez le Seigneur, c'est très bien comme ça. Mais le problème vient quand on met les cadeaux à la place de Dieu. On remplace le donateur par le don. Et là, on a un problème. Et on pense que c'est ça qui se passe avec cette pauvre femme samaritaine. Hein? Les relations humaines, c'est bon. Mais quand tu veux remplacer les relations humaines avec Dieu, ou Dieu avec les relations humaines plutôt, ça ne marche pas. La femme samaritaine avait tout misé sur les relations avec des hommes et sa soif n'avait qu'augmenter. Nous, on a besoin aussi, comme elle, on a besoin d'entendre Jésus nous dire l'erreur qu'il y a à chercher notre satisfaction spirituelle dans ce qui est contraire à sa volonté. C'est une erreur de vouloir chercher à être satisfait par les dons plutôt que le donateur. Alors, arrêtons-nous un instant maintenant à examiner la façon dont Jésus s'est révélé à cette femme. C'est très intéressant au fil du chapitre et des versets de voir comment Jésus, petit à petit, il se révèle, il se fait connaître à cette femme. Au début, Jésus se présente comme un homme ordinaire. Il ne dit pas qui il est, il dit simplement qu'il a soif, il est fatigué, un homme ordinaire. Et la Samaritaine le voit comme un juif sans distinction particulière. Mais au fil de la conversation, vous avez remarqué, c'est sans doute à cause de sa façon de lui parler, la Samaritaine reconnaît Jésus comme un rabbin. Elle l'appelle maître. Ensuite, elle s'ouvre à son enseignement parce que Jésus l'intrigue. Et quand Jésus lui révèle ce qui s'est passé dans sa vie, elle l'accepte comme un prophète de Dieu. Vous voyez, homme ordinaire, rabbin, prophète de Dieu. Après que Jésus lui a expliqué le genre d'adoration que Dieu demande, elle voit en lui le Messie, le Christ. Et à la fin, Jésus se dévoile non seulement comme le Messie, mais comme le Sauveur du monde. Et la Samaritaine n'est pas la seule à savoir qu'il est le Sauveur, mais plusieurs autres de ses compatriotes découvrent Jésus aussi comme le Sauveur du monde. Vous avez vu la progression ? Juif ordinaire, maître, prophète, Messie, Sauveur. Je crois que nous aussi, on a besoin que Jésus nous révèle sa vraie identité. Parfois, on a commencé à découvrir Jésus d'une certaine manière, mais ce n'est pas suffisant. Savoir que Jésus est un rabbin, c'est pas assez. Savoir qu'il est prophète, c'est pas assez. Et Jésus a besoin de nous amener plus loin, jusqu'à temps qu'on le reconnaisse comme Messie et Sauveur du monde. Et dans le passage ici, ce qui est très beau, c'est ce qu'on lit, que la femme, après avoir compris qui est Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a laissé sa cruche derrière elle. Elle était venue au puits à midi avec une cruche, et elle est repartie différente. Après que Jésus lui ait montré qu'il est le Messie, sa cruche, elle la laisse derrière elle. Et cette vieille cruche, on pourrait dire que c'est comme son ancienne vie. Ses habitudes, ses moyens de combler sa soif avant de rencontrer Jésus. Tout est abandonné maintenant avec joie. Elle a trouvé mieux, infiniment mieux. Et maintenant, c'est du trop plein de son cœur qu'elle court dire aux autres samaritains dans la ville ce qu'elle vient de découvrir. Son cœur était vide avant, et maintenant son cœur déborde. C'est comme une source qui jaillit d'elle. Et du trop plein de son cœur, elle va arroser les autres. Exactement comme Jésus lui a dit. Cette eau que je vais te donner, ça va être une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette femme, elle est devenue une chrétienne contagieuse. Parfois, on se dit, mais comment être motivé pour annoncer l'Évangile ? Comment devenir un chrétien contagieux ? Elle est devenue une chrétienne contagieuse. Elle est devenue cette femme remplie de la présence de Jésus. Elle a découvert qui il est et maintenant, elle en parle naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte aujourd'hui ? Eh bien, l'histoire de Jean 4 nous raconte l'histoire d'une femme qui ignore sa soif. Et on l'a dit, il y a beaucoup de personnes, comme cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits de Jacob, il y a beaucoup de personnes dans notre monde, peut-être des gens qu'on connaît, qui ne savent pas qu'ils ont soif. Et surtout, ils ne savent pas de quoi ils ont soif. Alors, vous rencontrez des gens, ils vont peut-être vous dire, mais il y a un malaise dans ma vie. Il y a une sensation de manque, mais ils ne savent pas trop bien pourquoi. Et il y a peut-être des gens ici, c'est peut-être votre cas aujourd'hui à vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Et on ne sait pas pourquoi. Et on peut passer sa vie à essayer d'apaiser cette soif, sans savoir d'où vient la soif et sans comprendre pourquoi il y a ce vide en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette soif ? Qu'est-ce qu'on fait de cette soif quand on découvre qu'il y a ça dans notre vie ? On l'ignore ? On fait comme si ça n'existait pas ? On attend que ça parte ? Il y a des personnes qui choisissent cette option-là. Il y a des gens qui vont faire ça. Ils passent leur vie à faire taire cette petite voix qui tente de leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On étouffe. Pourtant, la voix revient. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme quelqu'un qui voit un voyant sur le tableau de bord dans sa voiture. Ça vous est déjà arrivé ? Tic, tic, ça commence à clignoter, le voyant. Hein ? Et tu décides de ne pas t'en occuper. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, et tu continues à rouler. La voiture peut continuer à rouler pendant un certain temps, mais tôt ou tard, il va falloir faire attention au signal. Sinon, la voiture va finir par s'arrêter. Alors, pour ceux qui ont remarqué un voyant rouge qui s'allume dans leur vie, ceux qui ont soif, Jésus veut nous dire qu'il y a une eau supérieure à celle qu'on a connue jusqu'à maintenant pour apaiser sa soif. Jésus veut nous montrer pourquoi on a encore soif après avoir bu à toutes les eaux stagnantes que le monde nous offre. Jésus désire cet après-midi nous faire découvrir une source qui va jaillir dans notre cœur jusque dans la vie éternelle. Jésus désire qu'en trouvant cette source, on abandonne notre vieille cruche, nos citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, comme dit le prophète Jérémie. Jésus nous invite aussi à devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est quand Jésus prend la place de roi dans notre vie, qu'on peut apprendre vraiment à adorer Dieu comme il veut être adoré, en esprit et en vérité. Jésus veut qu'on le reconnaisse comme Messie et Sauveur. Je vais terminer le message en lisant dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, un peu plus loin, verset 37. C'est une invitation. Peut-être que vous avez soif aujourd'hui. On peut être chrétien et avoir soif aussi. Mais la route pour désaltérer son corps et son esprit, c'est la même que pour la conversion. Et Jésus dit, le dernier jour de la fête était le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son cœur, comme le dit l'Écriture. » Prions. Seigneur, merci pour ta façon de toucher nos vies. Merci Seigneur pour ta sensibilité envers chacun. À Nicodème, l'homme âgé, tu lui as parlé de naître de nouveau. À la femme samaritaine qui avait soif, qui allait puiser de l'eau, tu as parlé d'eau vive. Et tu fais cela avec chacun de nous parce que tu connais nos vies, tu connais nos besoins. Et tu ne répètes pas toujours les mêmes choses, mais tu as tellement à cœur de nous aider à comprendre ta parole. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, dans notre monde, avec des personnes qui ont faim et soif, tu apportes la solution, Seigneur. C'est ta parole, c'est ta personne qui désaltère vraiment. Seigneur, si nous avons essayé quelque part dans notre vie de boire à une autre source ou de combler ses besoins en allant ailleurs que vers toi, nous voulons nous repentir. Nous voulons te dire que nous abandonnons cette idolâtrie. Mais maintenant, nous voulons venir à toi et nous attendons à ce que tu nous combles parce que, Seigneur, c'est toi qui peux remplir le vide dans notre cœur et qui peut répondre à tous nos besoins. Seigneur, sois le maître de notre vie et remplis nos cœurs de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.